Europe Midi jusqu'à 13h15 sur Europe 1, c'est avec vous Maxime Switek. Bonjour Maxime.
Bonjour Anissa, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'Europe Midi avec à la une aujourd'hui ce terrible incendie la nuit dernière à Marseille. 4 morts dont un enfant, nous serons sur place dès le début de ce journal. Ils ont rendez-vous dans 30 minutes, première rencontre et premier déjeuner en tête à tête pour Emmanuel Macron et Donald Trump. Cela se passe en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Dans ce journal, de simples contraventions pour les fumeurs de cannabis, c'est ce que veut instaurer le gouvernement d'ici la fin de l'année. On en parle dans ce journal et tout à l'heure dans le débat d'Europe Midi. Le Royaume-Uni figé, tout le pays a respecté il y a une demi-heure une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat de Manchester. Par ailleurs, grosse colère de la première ministre, elle ne supporte plus les fuites dans l'enquête. Également au sommaire d'Europe Midi, le pont de l'Ascension, journée rouge sur la route, qui part et qui va où? C'est ce que nous verrons. Et puis Cannes, la palme sera décernée dimanche, mais une question dès ce midi, la sélection de cette année n'est-elle pas un peu décevante? La météo, bonjour Valérie Darmon.
Bonjour Maxime, bonjour à tous.
Que de bonnes nouvelles, grand soleil et température estivale.
Absolument, cet après-midi s'annonce comme ce matin, pleinement ensoleillé pour l'ensemble de la France. Quelques cumulus innocents se développent dans les Pyrénées et en Corse. Dans les Alpes, ils peuvent donner ponctuellement une toute petite averse. Les températures sont souvent en hausse et partout supérieures au normal de saison. 24 à 28 au nord et 28 à 32 au sud.
Météo complète juste avant 13h. Europe Midi, c'est parti.
Europe Midi, Maxime Switek.
Je vous le disais dans les titres, 4 personnes sont mortes dans un incendie la nuit dernière à Marseille. 4 victimes, dont un enfant. Cela s'est passé dans un petit immeuble du 12e arrondissement de la ville. Vous êtes sur place pour Europe Midi, Nathalie Chevance. Nathalie, les habitants sont sous le choc.
Oui, des habitants qui pour la plupart ont passé la nuit dehors devant cette copropriété de 4 étages située à Saint-Julien, quartier résidentiel. Une vingtaine de résidents qui, eux, ont eu la vie sauve, extrêmement marqués par la violence du feu qui s'est déclenchée en pleine nuit à 3h du matin. Tout a démarré par une violente explosion venue du bas de l'immeuble, comme en témoigne Alain.
Un boom réveillé par un sursaut, un boom énorme. Ah ouais, c'était un four, hein. Il sortait les flammes, c'était un four le rez-de-chaussée. Ça a tout carbonisé. Et la fumée qui commençait à rentrer par le dessus-dessous de porte. Donc on a tout calfeutré la maison. On est allé à l'opposé de là où venaient les fumées. J'ai sécurisé ma famille, je suis descendu pour aller voir et voir si on pouvait filer un coup de main en bas. Et les flammes, elles sortaient par l'entrée. Après, ça va très vite. Hein.
Mais dans la panique, certains résidents ont préféré fuir en empruntant les escaliers. C'est comme cela qu'une famille s'est donc retrouvée prise au piège, intoxiquée par les fumées. Une femme d'une cinquantaine d'années, sa fille de 25 ans et sa petite fille d'à peine 3 ans n'ont pas survécu. C'est du rez-de-chaussée de l'immeuble que le feu s'est déclenché, comme l'explique le commandant de corvette, David.
Le feu concernait un local qui contenait des deux roues et puis vraisemblablement des hydrocarbures. Le feu était très virulent à notre arrivée sur les lieux. Les victimes ont été retrouvées dans les circulations, donc dans les escaliers. À ce stade, on peut penser qu'elles étaient en train d'essayer de fuir.
Alors la quatrième victime serait probablement une femme qui habite au rez-de-chaussée. On compte aussi un blessé grave, un homme brûlé à 70%. 3 marins-pompiers ont subi un coup de chaud et une cellule psychologique a dû être mise en place pour accompagner les familles.
À Nathalie Chevance, correspondante d'Europe 1 à Marseille.
Il est 12h33, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek.
Autre titre à la une de ce jeudi midi, c'est ce tête-à-tête Macron-Trump à Bruxelles en marge du sommet de l'OTAN. Les deux présidents ont rendez-vous pour déjeuner. C'est la toute première fois qu'ils vont se voir. Cela va se passer à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Donc, vous y êtes pour Europe 1, Aurélie Herbemont. Aurélie, ce déjeuner doit débuter dans une demi-heure.
Oui, Emmanuel Macron est attendu ici par Donald Trump à 13h pour le déjeuner. Ce sera la première rencontre entre les deux hommes, mais pas le premier contact. Ils se sont déjà parlé le 8 mai, au lendemain de l'élection du président français. Mais aujourd'hui, il s'agit d'aborder le fond des sujets et le menu est copieux, je peux vous le dire. Syrie, Ukraine, Corée du Nord, implication des États-Unis dans l'Alliance Atlantique, questions économiques franco-américaines, sans oublier l'accord de Paris sur le climat. C'est un sujet compliqué, reconnaît l'Élysée, car Donald Trump a promis pendant sa campagne que les États-Unis sortiraient de cet accord historique, un scénario redouté par l'Élysée car il pourrait déclencher le désengagement d'autres pays. Emmanuel Macron veut donc profiter de ce déjeuner pour plaider la cause environnementale auprès de Donald Trump. Le président américain a déjà fait savoir qu'il statuerait sur la question à son retour du G7 qui se tient ce week-end en Italie. Le président français aura 1h15 en face à face avec Donald Trump pour le convaincre sur le climat et faire avancer tous les autres dossiers.
Aurélie Herbemont en ligne de Bruxelles pour Europe Midi. Merci Aurélie. Bonjour Christian Lequen.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous dans Europe Midi. Vous êtes professeur à Sciences Po Paris. Parmi tous les dossiers que vient d'énumérer Aurélie Herbemont, lequel vous paraît le plus problématique entre Trump et Emmanuel Macron ?
Oh ben je pense qu'il y a deux dossiers qui seront certainement discutés, pas en détail, parce que le rendez-vous est trop court pour qu'on entre vraiment dans le détail. Mais le premier, c'est la question de l'OTAN. Et est-ce que M. Trump est prêt à véritablement accepter les garanties de solidarité, puisque jusqu'à présent, il ne s'est pas prononcé de façon explicite. Le deuxième sujet OTAN, ce sera la question des dépenses, ce qu'on appelle le partage du fardeau. Et puis, du côté français, il y aura, comme l'a dit votre reporter, la question de l'application de l'accord de Paris de décembre 2015 sur le climat, puisque on n'est pas sûr pour l'instant de la ratification américaine. Monsieur Trump laisse sur ce sujet planer le doute.
Pour l'instant, il y a un doute. Vous diriez justement que Donald Trump est une menace pour à la fois les relations franco-américaines et les relations européo-américaines ?
Il est plutôt un facteur d'incertitude qu'une menace, si vous voulez. La difficulté avec Trump, c'est qu'on ne sait jamais à l'avance comment il va réagir. Mais je crois quand même que les Français, comme l'ensemble des Européens, sont un peu plus à l'aise aujourd'hui que pendant la campagne, puisqu'il a montré sur plusieurs dossiers qu'il était en mesure quand même d'écouter un peu son administration et de s'inscrire dans la continuité de ce qu'ont fait les précédents présidents américains. Voilà. Donc il est incontrôlable, mais tout de même moins incontrôlable qu'on ne pouvait le penser lorsqu'il était candidat.
Une question encore, Christian Lequen. Vous avez, vous aussi, le sentiment qu'on pourrait assister là au choc quand même de deux mondes, de deux styles de président ?
Ah ben, ce sont deux hommes tout à fait différents, puisque d'un côté vous avez Emmanuel Macron, qui est un homme de dossier très 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 rationnel. De l'autre, vous avez Monsieur Trump, qui est plutôt un homme impulsif, qui essaie de lire ses fiches le mieux possible, que lui ont préparé ses collaborateurs. Oui, ces deux styles qui n'ont strictement rien à voir, ça c'est certain. Mais vous savez, en diplomatie, ça arrive souvent. Il faut faire des compromis entre des personnes qui n'ont strictement rien à voir. C'est encore une fois un élément assez classique dans les relations internationales et dans la diplomatie.
Et déjeuner prévu donc dans moins d'une demi-heure maintenant à Bruxelles. Merci Christian Lequen, professeur à Sciences Po. Je donne le titre de votre livre, Ethnographie du Quai d'Orsay, les pratiques des diplomates français. C'est aux éditions du CNRS. Merci à vous. Je le disais, si Donald Trump et Emmanuel Macron sont à Bruxelles, c'est parce qu'ils doivent participer au sommet de l'OTAN. Le président français a d'ailleurs d'autres rendez-vous prévus à son agenda diplomatique, rencontre notamment avec le président turc Erdogan en ce moment, avec au cœur des discussions sans doute le sort de Mathieu Depardon. Ce journaliste français est emprisonné depuis près de deux semaines en Turquie. Il a été arrêté alors qu'il faisait simplement son travail. Il a entamé là-bas une grève de la faim et ce matin à Paris, sa mère s'est présentée à l'ambassade de Turquie pour tenter d'avoir des informations et des nouvelles de son fils. Je vous propose d'écouter Daniel Van Delanotte.
Ça commence à m'inquiéter au niveau de sa santé et son moral aussi. Voilà.
Vous avez eu des nouvelles de lui ?
Ben, juste son avocate qui me dit il va bien, d'autres me disent il va pas bien du tout, surtout pour commencer une grève de la faim. Je crois que Mathias ne doit pas aller bien, c'est parce qu'il est au bout du rouleau, si on peut dire ça comme ça, et d'impatience parce qu'il comprend pas pourquoi il y est. Il a rien de fait politique, il a rien de fait négatif, il fait un simple reportage pour National Geographic. Tout ce que j'entends sur Monsieur Erdogan, ça m'inquiète aussi, parce que j'entends qu'il y a des gens qui sont restés très longtemps là-bas et enfermés, et si et aujourd'hui, ça ne bouge pas, je vais commencer vraiment à me faire des soucis. Et on ne sait pas dans quelle mesure la conversation va prendre entre M. Macron et M. Erdogan. Aujourd'hui, ils vont se parler de Mathias, donc il n'est probablement pas encore sorti non plus.
Voilà la mère de Mathias Depardon au micro Europe 1 de Caroline Philippe.
Europe 1. Il est 12h39, Europe Midi, Maxime Switek.
La loi va changer, la loi sur les stupéfiants en France. C'est le ministre de l'Intérieur qui l'a annoncé. D'ici la fin de l'année, les fumeurs de cannabis, les simples usagers, ne risqueront plus qu'une contravention. Virginie Salmen, jusqu'à maintenant, ils risquaient en théorie une peine de prison et une forte amende.
Oui, jusqu'à un an de prison et 3 750 € d'amende. C'est ce que prévoit actuellement le Code de la Santé publique pour la simple consommation de cannabis dans la rue ou chez soi. Dans les faits, l'usage est souvent tolérée, même si 100 000 personnes par an, en moyenne, se retrouvent devant les tribunaux, souvent pour écoper d'un simple rappel à la loi. Alors, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, propose un toilettage de cette loi de 70. Il ne s'agit ni de dépénaliser, ni de criminaliser. On est au milieu du guet. Ce n'est pas une idée nouvelle. Un rapport sur ce système de contravention est resté sur le bureau de Manuel Valls pendant près d'un an. Les experts recommandaient d'ailleurs une contravention de l'ordre de 300 euros pour les consommateurs de cannabis. C'est une mesure que les syndicats de policiers aussi réclamaient depuis longtemps. Pour eux, le traitement de ces petits délits était très chronophage et sans aucune efficacité en matière de lutte contre les trafics. Ces contraventions permettent aussi une plus grande lisibilité de la réponse pénale aux yeux des consommateurs. Ces changements seront effectifs d'ici 3 à 4 mois, selon le ministre de l'Intérieur.
Explication de Virginie Salmen. Merci Virginie. Une simple contravention pour les fumeurs de cannabis, est-ce du bon sens ou du laxisme? Ce sera tout à l'heure le débat d'Europe Midi. Débat à 13h05.
Et vous pouvez profiter de votre jeudi de l'Ascension pour participer au débat d'Europe Midi. N'hésitez pas. Vos réactions, vos questions dès maintenant sur Twitter avec le hashtag #1midi ou alors en appelant Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute.
L'affaire Richard Ferrand, le ministre épinglé par le canard enchaîné qui le soupçonne d'avoir favorisé sa femme dans une opération immobilière lorsqu'il était directeur général des mutuelles de Bretagne. C'est au tour de l'association Anticor de réclamer sa démission, association de lutte contre la corruption. Pour son président, on est là sur une question de morale et la démission de Richard Ferrand permettrait de ne pas affaiblir l'ambition de moralisation de la vie politique que porte Emmanuel Macron. Démission rejetée par Richard Ferrand en personne ce matin.
Europe 1, il est 12h41. Europe Midi se poursuit dans deux minutes avec vous, Maxime Switek.
Et avec cette minute de silence respectée à l'instant au Royaume-Uni et notamment à Manchester. À tout de suite.
Europe Midi revient dans un instant. Europe Midi.
Il est 12h43 sur Europe 1, la suite d'Europe Midi, Maxime Switek avec donc cette minute de silence.
Moment de recueillement dans tout le Royaume-Uni, cela s'est passé il y a un peu plus d'une demi-heure en hommage bien évidemment aux 22 victimes de l'attentat de lundi soir. Minute de silence respectée notamment à Manchester où on vous retrouve Mathieu Bock pour Europe Midi. Mathieu, c'est toute la ville qui s'est arrêtée.
Oui, en quelques minutes, environ 3000 personnes ont rejoint St. Anne's Square. En costume ou tailleur, badge de travail autour du cou, elles ont surgi des petites rues aux alentours pour envahir la place. Et au son des cloches de l'église, elles ont entamé une minute de silence, seulement perturbée par des bruits d'hélicoptères, qui s'est terminée par des applaudissements, traduisant ainsi l'émotion de toute une ville.
J'étais au travail et je suis descendu dans la rue quelques minutes simplement pour montrer mon respect. Pour moi, c'est assez naturel et évident de venir ici. La question ne s'est même pas posée.
C'est juste une marque de respect. On est là pour montrer que la ville est unie et on restera debout face à n'importe quelle menace. J'espère que les gens réagiront de la bonne manière. Manchester a connu beaucoup d'attaques et d'attentats, mais on est toujours resté fort en résistant ensemble.
Les Mancuniens ne se sont pas dispersés immédiatement, comme unis par l'envie de rester ensemble, puis ils se sont séparés en fredonnant une chanson du groupe Oasis, originaire de Manchester.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Manchester. Concernant l'enquête, deux nouvelles personnes ont été arrêtées ce matin. Au total, 8 hommes sont donc désormais en garde à vue. On sait que le père et le frère du terroriste ont également été arrêtés en Libye. Beaucoup d'informations ont filtré ces dernières heures, notamment sur la nature de l'engin explosif utilisé lundi. Et cela, Theresa May, la chef du gouvernement britannique, ne le supporte pas. Elle l'a dit ce matin, Jean-Sébastien Soleilny, elle a dit son ras-le-bol des fuites dans cette enquête.
Et elle le redira dès aujourd'hui en personne à Donald Trump. Jusque-là, c'est un porte-parole du gouvernement qui se dit furieux d'avoir vu certaines photos paraître dans la presse américaine, un détonateur que le kamikaze aurait tenu dans sa main gauche, des morceaux de métal, des vis jonchant le sol ainsi que des fragments d'un sac à dos bleu déchiqueté, des photos prises par les policiers anglais et transmises aux services américains pour qu'ils collaborent à l'enquête, d'où le ton sévère de cette parole. Quand la confiance est rompue, dit-il, cela compromet nos relations et nuit à nos enquêtes. Amber Rudd, la ministre de l'Intérieur britannique, se fait même menaçante sur la BBC.
La police britannique a été très claire sur le fait qu'elle veut contrôler le flux d'informations afin de protéger l'intégrité opérationnelle de l'enquête et de pouvoir bénéficier d'un effet de surprise. Donc ça devient irritant que ces informations sortent via d'autres sources. J'ai été très claire auprès de nos amis sur le fait que cela ne doit pas se reproduire.
Sur la question de savoir si les autorités américaines ont compromis l'enquête, elle répond « Je n'irai pas si loin, mais des mesures semblent déjà prises. La police de Manchester a cesser de transmettre des informations aux États-Unis. »
Jean-Sébastien Soldaini.
Europe 1. Il est 12h46, Europe Midi, la suite du journal. Maxime Switek.
Comment doit se dérouler la journée d'un demandeur d'emploi? C'est à cette question qu'a voulu répondre l'agence Pôle emploi de Compiègne. Elle l'a partagé sur Internet, une sorte d'agenda modèle, une fiche intitulée « Journée type d'un demandeur d'emploi efficace ». Alors vous avez dans cette fiche toutes sortes de conseils pour être effectivement plus efficace dans ses recherches. Mais ce qui est beaucoup plus troublant, Jean-Jacques Herry, c'est qu'il y a aussi des conseils quasiment intimes.
Oui, exemple, Maxime, lors de cette journée type, il est conseillé aux chômeurs de se lever à 7h45 et après une petite séance d'exercice à jeun, conseil santé, je cite, « on boit son café sur le balcon pour profiter de la lumière du jour, antidépresseur naturel ». Autre conseil donné, pas de temps à perdre pendant qu'on se lave, à 8h30, sous la douche, on profite de 10 minutes afin de réfléchir à nos objectifs et à nos envies. Bref, l'automotivation à tous les moments du quotidien. Alors, c'est vrai qu'à côté de ces propositions pas forcément pertinentes, il y a aussi des vrais conseils pour organiser sa recherche d'emploi, ciblage des entreprises, relance des employeurs. Mais ils sont dilués dans les autres et on les oublie. Et en effet, plus que les mises à jour de CV, la relecture des lettres de motivation, les internautes et les chômeurs qui réagissent sur les réseaux sociaux retiennent plutôt le café bronzette sur le balcon. Ils ont la désagréable impression qu'on alimente les clichés du chômeur oisif, profiteur et parasite. Alors il serait malhonnête de dire qu'il y a une volonté affichée de se moquer des chômeurs au vu du document, mais ces conseils sont jugés infantilisants et méprisants par les chômeurs et les internautes.
Merci Jean-Jacques Herry. Vous le savez, c'est un long pont de 4 jours qui débute aujourd'hui, jeudi de l'Ascension. Du monde sur les routes, la journée classée rouge d'ailleurs dans le sens des départs, du monde aussi dans les gares, comme ici Gare de Lyon.
Nous allons à Avignon, sur le pont.
C'est la cité des papes.
Très agréable, il fait très beau.
Je vais profiter du soleil dans le sud-est, en famille, barbecue, peut-être piscine si elle est assez chaude, et puis du bon temps et du repos.
On a une réunion de famille en Ardèche, on va être une trentaine de personnes. On va prendre l'air et il va faire beau, donc on a de la chance. Juste le mari qui reste travailler, le pauvre.
Voilà, des barbecues, un peu de rosé.
J'ai sorti bateau.
La sieste d'abord, la vie parisienne est trop éreintante.
En tout cas, on va y aller. Allez, bon week-end.
Réaction de voyageurs en micro juste à Morin. Effectivement, bon week-end. Bonjour Didier Arino.
Bonjour Maxime Switek.
Directeur du cabinet Pro Tourisme, merci d'être avec nous dans Europe Midi. Vous scrutez nos habitudes en matière de tourisme. On peut dire que l'Ascension, c'est vraiment le début de la saison?
On peut dire que l'Ascension, c'est le début de la saison, surtout cette année. C'est une aubaine extraordinaire pour les professionnels du tourisme hexagonal, avec une fréquentation record, digne du cœur du mois de juillet pour bon nombre de destinations, à la fois des destinations balnéaires comme la Bretagne, le Pays Basque ou l'autre pays Qatar, mais aussi pour les destinations de l'intérieur comme on a pu l'entendre, que ce soit en Normandie, dans la Drôme, en Ardèche ou au cœur de la Bretagne, au Pays de Morlaix.
Les Français partent beaucoup pour un pont comme celui-là?
Alors cette année, il y a un double phénomène. Tout d'abord, il y a une augmentation de l'assise des partants, à la fois pour les vacances de printemps, mais aussi dans les intentions de départ cet été. Il y a 1,2 million de plus de partants au printemps que l'an passé. Et puis, il y a un phénomène météorologique qui joue, avec des Français qui attendent que toutes les conditions puissent être réunies pour partir. Et là, c'est bien le cas, avec une très belle météorologie. Et aussi un phénomène de rattrapage, puisque il y a eu les ponts du 1er mai et du 8 mai, où il y avait des élections. Et donc, ça a limité les départs de nos concitoyens. Ce qui fait que ça lance véritablement la saison touristique, avec en plus une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a le retour des clientèles étrangères. Donc on peut dire que le tourisme français va bien se porter cette année. Il en avait besoin après une année 2016 noire. Rappelons qu'à la même période, il y avait des grèves, des manifestations, des pénuries d'essence. Et donc ce phénomène de rattrapage est le bienvenu pour un secteur qui a généré 47% des emplois créés dans le privé entre 2009 et 2014 et qui ensuite s'est un peu écroulé du fait des attentats de la crise. Donc on peut dire que le secteur du tourisme se porte mieux, se porte bien, et c'est une bonne nouvelle avec des Français qui en plus restent dans l'Hexagone cette année et privilégient les campings et les villages de vacances.
Et c'est une tendance, Didier Arino, que vous voyez se confirmer déjà pour cet été ou c'est compliqué?
Non, on voit se confirmer cette tendance avec des Français qui restent plus dans l'Hexagone, qui partent moins à l'étranger, avec un retour des clientèles étrangères, et puis avec de nouveaux partants. On sait que dès qu'il y a une toute petite baisse du chômage ou une légère augmentation du pouvoir d'achat, les Français repartent. Mmh. C'est le cas cette année, puisque les années précédentes, notamment les deux dernières années, les classes moyennes des zones rurales, des périphéries, des grandes villes étaient moins parties. Ça avait généré une limitation des nuitées en hébergement marchand. Et cette année, on a une assise plus forte, donc plus de partants, avec des Français qui restent plus dans l'Hexagone. C'est une très bonne chose pour nos professionnels qui avaient souffert ces dernières années. Et d'ailleurs, on le voit bien, ceux qui proposent un bon rapport qualité-prix sont extrêmement bien réservés cette année. C'est le cas notamment des campings haut de gamme, des villages de vacances comme Sunelia ou VTF.
Et si en
c'est
plus...
le cas aussi des destinations qui ont du contenu parce que les Français ne veulent pas seulement du soleil et de la plage, ils veulent aussi découvrir, apprendre, partager en famille.
Et si en plus il y a des bons plans. Merci beaucoup Didier Arino, directeur du cabinet Pro Tourisme, et bon week-end de l'Ascension donc à toutes et à tous, et à vous aussi Didier Arino.
Soyez prudents si vous êtes sur la route, hein, à l'écoute d'Europe 1, il est 12h51. Europe Midi se poursuit dans un instant avec vous, Maxime Switek.
Et nous irons à Cannes, Anissa, pour les films du jour et un premier bilan de ce festival. À tout de suite.
Europe Midi revient dans un instant. Europe Midi.
Il est 12h53 sur Europe 1, la suite d'Europe Midi, Maxime Switek avec donc le Festival de Cannes.
Il reste 3 jours, la palme sera décernée dimanche. Bonjour Bruno Kras.
Bonjour.
Bruno, en compétition aujourd'hui, il y a notamment un polar, ça s'appelle Good Time et c'est réalisé par deux frères new-yorkais.
Ouais, c'est un petit polar déjanté qui va à 100 à l'heure, l'histoire de deux frères un peu paumés. Ils braquent une banque pour quelques dizaines de milliers de dollars, mais l'affaire tourne mal et tout part en vrille. C'est pas mal en fait, hein. Ça se passe dans les bas-fonds de New York, dans un milieu de dealers et de truands la petite semaine, et surtout Robert Pattinson, l'ex-beau gosse de Twilight, amaigri, le visage émacié, fait une véritable composition. Le film lui-même, il vous fait passer un bon moment, mais il n'a pas, vous savez, la dimension intellectuelle, entre guillemets, qu'on attend d'habitude à Cannes.
Justement Bruno, on vous entend régulièrement ici même depuis le début de ce festival, et je vous ai senti quand même à plusieurs reprises un peu dubitatif sur la sélection de cette année.
Oui, le problème, c'est que plus ça va, plus on trouve que cette sélection est quand même assez médiocre. À chaque fois, on se dit que les meilleurs films restent à venir, mais on a déception sur déception. Le Haneke, le Sofia Coppola. Hier, on a vu un film d'un grand cinéaste ukrainien, Sergei Leonidzai, qui est l'autre film en compétition aujourd'hui, qui s'appelle Une femme douce. Mais franchement, c'est très intéressant. Ça parle de l'Ukraine, mais ça dure 2h25 et ça devient un pensum au bout du compte. Alors, en gros, on a vu pour le moment 17 films sur les 19 de la compétition. Et vraiment, il n'y en a que 5 ou 6 au maximum qui émergent, dont quand même le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui, comme vous savez, défend les couleurs de la France. Donc ça, c'est une chose positive au moins.
Voilà, et on verra s'il est au palmarès dimanche. Merci beaucoup Bruno Kras en direct de Cannes et du Festival pour Europe Midi. Le foot avec au programme ce soir le premier match de barrage entre Lorient, 18e de Ligue 1, et 3, 3e de Ligue 2. Le vainqueur de ces barrages aura le droit de jouer dans l'élite la saison prochaine. Bonjour Otman Azedine.
Bonjour Maxime.
On va en parler avec vous. Otman, c'est en fait ces barrages le retour d'une vieille tradition du foot français.
Oui, près d'un quart de siècle que le championnat français de football n'avait pas connu pareil dénouement. La dernière fois, c'était en 1993 et la promotion de l'AS Cannes en première division. Ce soir, c'est le club de Troyes qui peut écrire une belle page de son histoire, bien négocier ce match aller pour avoir une chance lors du retour en Bretagne dimanche soir. L'entraîneur troyen Jean-Louis Garcia est formel. Il faudra de toute façon créer l'exploit. Il était au micro de Damien Ardoy.
Sans faire offense aux autres, je pense sincèrement que c'était la pire équipe à prendre en barrage. Sur un simple match sur terrain neutre, ça aurait été différent. Mais sur un match aller-retour, il nous faudra être très très performants, se surpasser, se sublimer. Et si nous parvenions à l'issue de ce barrage à monter en Ligue 1, ça serait pour moi un exploit.
Jean-Louis Garcia, prudent, presque inquiet, et pourtant son club a toutes les chances d'évoluer en Ligue 1 l'an prochain. Sur 21 barrages disputés en aller-retour, le petit l'a emporté à 15 reprises, soit dans 71% des cas. C'est assez drôle en effet. Un chiffre qui s'explique assez simplement puisque l'équipe de Ligue 2 peut finir l'année en beauté alors que celle de Ligue 1 doit sauver sa saison, Maxime.
Et voilà, Lorient 3, coup d'envoi 20h45. Merci Otman Azedine.
À suivre sur Europe 1 à 13h15 dans 20 minutes maintenant. On de la traconte avec aujourd'hui, Christophe, une affaire mystérieuse et historique.
Gaspard Hauser apparaît un jour de 1828 à Nuremberg, en Allemagne. Ce gamin est-il un enfant sauvage qui a grandi dans une ferme ou est-il le bâtard d'une princesse?
La réponse tout à l'heure à partir de 13h15 sur Europe 1 avec Christophe Ondelat.
Dans un instant, la météo, le journal de 13h et le débat d'Europe Midi. Débat autour du cannabis aujourd'hui. Bientôt, les fumeurs ne risqueront plus qu'une contravention. A tout de suite.
Europe Midi revient dans un instant.
Avec Page Jaune, choisissez le bon professionnel près de chez vous pour votre maison ou votre appartement sur pagejaune.fr et mobile. Voici la météo.
et la météo, c'est avec vous Valérie Darmon. Pour aujourd'hui, le cas est réglé, il fait beau, tout va bien. Demain, toujours du soleil ou pas?
Et oui, et même tout le week-end. Hein. Peut-être dimanche, l'arrivée de quelques orages sur la Bretagne, mais on en reparlera, on en parle plus. Voilà. Demain, on a juste quelques grisailles côtières qui abordent le golfe du Lion dès le matin. Et les côtes aquitaines dans l'après-midi, elles rentreront un petit peu plus dans l'intérieur des Pyrénées-Atlantiques dans la nuit. On retrouve, comme aujourd'hui, quelques cumulus dans les Pyrénées, les Alpes, mais aussi sur le Massif central, avec un coup de tonnerre possible en fin de journée sur les Pyrénées et puis partout ailleurs, le soleil qui brille.
Les températures.
Douceur dès demain matin avec des températures déjà supérieures aux normales de saison. 12 à 16 annoncées au nord, 15 à 18 au sud. Dans l'après-midi, les températures qui sont encore en hausse par rapport à aujourd'hui avec un contraste est-ouest plutôt que nord-sud. 25 à 30 dans la moitié est, 27 à 33 dans la moitié ouest, 33 dans le sud-ouest notamment. On pourra atteindre les 30 degrés dans l'intérieur de la Bretagne.
Incroyable week-end en perspective. Merci Valérie Darmon.
Vous écoutez Europe 1, il est 13h. L'essentiel de l'actualité, Maxime Switek.
Et à la une, ils sont sur le point d'entamer le hors-d'œuvre. Début dans quelques instants du déjeuner entre Emmanuel Macron et Donald Trump. Première rencontre entre les deux présidents à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, juste avant le début du sommet de l'OTAN. On va retrouver sur place notre correspondante Isabelle Horry. Isabelle, Donald Trump a rencontré par ailleurs ce matin les dirigeants européens. Le but de ces rencontres, c'était d'essayer d'avoir une relation la plus normale possible avec l'Amérique de Trump.
Oui, parce que depuis son élection, ça n'a pas été le grand amour hein, entre Trump et l'Union européenne. Il avait expliqué qu'il préférait négocier avec les pays un par un. Les patrons des institutions voulaient donc bien lui faire comprendre l'importance de l'Union en tant que telle. Ce matin, il n'y a pas eu de conférence de presse commune, juste un point du président du Conseil européen, Donald Tusk, à la fin. Selon lui, il y a des divergences sur le climat, le commerce ou sur la Russie. Il a aussi indiqué qu'il avait rappelé quelques fondamentaux.
Le message principal que j'ai transmis au président Trump, c'est que notre plus grande tâche aujourd'hui, c'est la préservation du monde libre, la préservation de nos valeurs et pas juste de nos intérêts. Les valeurs et les principes d'abord.
Les principes d'abord, c'est aussi ce que les Européens devraient répéter à Donald Trump cet après-midi, mais dans le cadre de l'OTAN cette fois. Ils vont lui montrer qu'ils font des efforts de budget militaire comme il l'a demandé et en échange, ils attendent qu'ils réaffirment l'engagement américain à voler à leur secours si nécessaire, comme le prévoit la charte de l'Alliance fondée après la Seconde Guerre mondiale.
Isabelle Horry en direct de Bruxelles pour Europe Midi. Merci Isabelle. 4 morts dans un incendie la nuit dernière à Marseille. Le feu a pris au rez-de-chaussée d'un petit immeuble du 12e arrondissement de la ville. Parmi les victimes, il y a un enfant. La reine Elisabeth II a rendu visite ce matin à Manchester aux blessés, aux personnes qui ont été blessées lors de l'attentat de lundi soir. Une minute de silence a également été respectée il y a une heure dans tout le Royaume-Uni en souvenir des victimes de l'attentat. Par ailleurs, 8 personnes sont aujourd'hui en garde à vue. On le sait, on l'a dit, les mesures de sécurité ont été renforcées partout dans le pays et chose très rare en Grande-Bretagne, des militaires se sont mis à patrouiller dans les rues de Londres notamment. Un reportage de la correspondante d'Europe 1, Anaïs Cordoba.
Autour du Parlement, des militaires, de nombreuses voitures de police qui patrouillent et des hélicoptères qui survolent la zone en permanence. Daniel travaille dans le quartier, il est stupéfait.
Ah oui, je n'avais jamais vu de militaires devant le Parlement avant, c'est assez surprenant. Mais bon, j'imagine que c'est une réponse proportionnée étant donné notre situation.
Un peu plus loin, Samia, elle, en est toute secouée. Cette Française qui vit à Londres depuis 18 ans vient régulièrement dans ce quartier devenu l'un des sites les plus sécurisés du Royaume-Uni.
On pense encore à l'attentat ici à Westminster. Je pense qu'on est encore sous le choc. Et puis de voir autant de forces de police autour, ça nous inquiète. Je ne sais pas si c'est le bruit, si c'est les sirènes. On n'a pas l'habitude de voir tant de présence policière dans les rues de Londres, donc c'est dur.
Comme tous les Britanniques, Henri n'est pas habitué non plus à voir tant d'hommes armés dans la rue. Seulement 5% des policiers anglais le sont, mais il approuve cette présence.
Dans la vie, il faut bien s'adapter. Et aujourd'hui, malheureusement, les criminels auxquels nous faisons face, ils sont armés.
They are armed.
Dans quelques jours, le nombre de militaires déployés en Grande-Bretagne pourrait s'élever à près de 4000.
Un reportage d'Anaïs Cordoba. On apprend à l'instant que les deux clubs de foot de Manchester, Manchester United et Manchester City, vont donner 1 million de livres, un peu plus d'un million d'euros, à un fonds d'aide aux victimes de l'attentat. Hors de question de démissionner pour Richard Ferrand. Le ministre l'a dit ce matin en déplacement en Bretagne, lui qui est pointé du doigt par le Canard enchaîné. Le Canard qu'il accuse d'avoir favorisé sa femme dans une opération immobilière du temps où il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Et puis un rappel dans ce journal, si vous devez prendre la route pour ce jeudi de l'Ascension, c'est rouge dans toute la France dans le sens des départs. Nous passons au débat d'Europe Midi.
Europe Midi.
Le débat d'Europe Midi, c'est jusqu'à 13h15 sur Europe 1 avec vos invités Maxime et toutes vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag 1 midi ou alors en appelant Europe 1 dès maintenant au 39-21, 50 centimes la minute.
Et on a effectivement déjà quelques réactions. Visiblement, le sujet fait parler sur Twitter notamment. Le débat d'Europe Midi débat aujourd'hui autour du cannabis puisque le gouvernement va changer la loi d'ici la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. Les simples consommateurs de cannabis ne risqueront plus désormais qu'une contravention. Alors est-ce une décision de bon sens ou du laxisme? On va en débattre en studio avec vous, docteur Alain Morel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre et membre de la Fédération Addiction. Par téléphone avec nous Thierry Clerc, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes secrétaire national pour la province et pour l'outre-mer du syndicat UNSA Police. Et je précise que vous avez travaillé 6 ans à la BAC de Lyon. Justement, vous, ça fait des années à l'UNSA Police que vous réclamez que l'on change la loi.
Alors ça fait quelques années effectivement que j'ai travaillé à la BAC de Lyon maintenant. Le problème existait, il est exponentiel depuis, puisqu'on a une consommation de matières stupéfiantes et de cannabis, notamment sur ces dernières années, qui est vraiment très très importante. Mm-hmm. Une augmentation de consommation qui est en hausse, un trafic qui s'étend, et c'est vrai qu'en l'occurrence, on a effectivement des procédures qui sont relativement lourdes. Nous, en ce qui nous concerne, UNSA Police, on milite pour une simplification des procédures pénales, notamment, et ce qu'on recherche surtout, c'est l'efficacité à ce titre-là. C'est-à-dire que nos collègues policiers, ils voient les dégâts qui sont occasionnés sur des jeunes, qui gâchent souvent leur avenir. Ils ont aussi affaire à des trafiquants qui prospèrent sur le trafic de stupéfiants, et notamment sur le trafic de cannabis. Donc c'est vrai qu'il y a une piste à explorer qui est proposée par le ministre de l'Intérieur, qui est à étudier de près d'ailleurs, puisque les procédures sont actuellement très lourdes, elles sont très peu suivi des faits. Il faut quand même savoir que sur 120, 130 000 à peu près procédures qui sont établies, seulement 2 000 à 3 000 procédures terminent devant une juridiction pénale.
Mais concrètement Thierry Clerc, ça voudrait dire que vous, policier, vous arrêtez dans la rue un fumeur de cannabis, vous lui dressez une contravention qui pourrait être, alors ça c'était dans les rapports qui avaient notamment été rendus à Manuel Valls, une contravention qui pourrait être de l'ordre de 300 euros. C'est comme ça que ça se passerait?
C'est comme ça que ça se passerait à partir du moment où on se retrouve sur une petite quantité, bien entendu.
Bien sûr.
Une quantité inférieure qui sera à définir, inférieure à 10 grammes, peut-être moins, je ne sais pas. Ça, ce sont des choses qui seront à définir. Effectivement, il faut que le montant quand même de la contravention soit relativement important aussi pour qu'il soit aussi dissuasif et quelque part qu'il y ait aussi qu'on ne perde pas ce caractère répressif. Parce qu'aujourd'hui, on a un outil répressif qui est très important, en théorie. Et en pratique, finalement, quand on se rend compte que sur 130 000 procédures, seulement une infime partie se termine devant des juridictions, et qu'on a de surcroît un nombre de plus en plus important de trafiquants, de consommateurs, d'usagers, effectivement, c'est une mesure, en tout cas, qui va dans ce sens-là.
Docteur Morel, est-ce que pour vous, ça irait dans le bon sens de simplement, alors je vais employer un mot qui va être très très long, je ne sais pas si je vais y arriver, contraventionnaliser la consommation de cannabis?
Je pense que c'est si c'est une, il faut tout dépend de la perspective que ça ouvre. Si c'est pour ouvrir un débat de fond sur la politique française en matière de drogue et plus spécialement en matière de cannabis, très bien, il faut saisir l'occasion. Si c'est simplement une réponse édictée en 2-3 mois pour alléger le travail des policiers, qui a besoin de ça certainement, mais ce n'est qu'une toute petite facette, donc le problème ne serait pas résolu. Il faut comprendre qu'on est face à deux enjeux, deux grandes tâches face à ce problème de drogue et particulièrement de cannabis. Le premier, c'est un problème de santé publique. Mmh. C'est celui de l'usage. De l'usage en particulier chez les adolescents. Parce que le cannabis n'est pas une des drogues les plus sévères, les plus graves dans ses conséquences, mais elle en a. Et en particulier quand on consomme jeune. Donc le sujet, il est là. Alors, est-ce que la contraventionnalisation va résoudre ce problème? Non. Le deuxième enjeu, c'est l'enjeu du trafic. On le voit très bien, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on le voit très bien avec ce qui s'est développé, ce qui se passe en particulier à Marseille, dans les quartiers nord. Est-ce que la contraventionnalisation de tous les usagers dans la rue va résoudre ce problème? Non. Donc il faut absolument avoir une vision globale de l'ensemble du problème. Si on prend les choses facette par facette, on ne les résout jamais. Et donc on n'arrive jamais à travailler sur le fond.
Le risque, Thierry Clerc, c'est que ça donne, comment dire, un signal de laxisme?
Oui, j'entendais effectivement. Je pense qu'effectivement, il faut une vision globale. La consommation, l'usage de stupéfiants, ça concerne toute la société. La seule réponse policière, de toute façon, elle ne suffira pas à tout. C'est bien évident. Mais quoi qu'il en soit, je pense que aussi, aujourd'hui, on a des procédures qui sont lourdes pour on l'a vu, pour des suites judiciaires qui sont quasiment inexistantes. Aujourd'hui, c'est aussi de donner plus d'efficacité de façon à pouvoir dégager du temps fonctionnaire et donc des fonctionnaires pour justement axer des choses sur justement le trafic de stupéfiants.
Mais simplement une question très concrète. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe quand vos collègues arrêtent quelqu'un dans la rue avec une petite quantité de cannabis? Est-ce que réellement des procédures suivent derrière ou est-ce que simplement la drogue lui est confisquée et il peut repartir chez lui?
Non, en fait, on va dire que la sanction, c'est une conduite au commissariat de l'usager, oui. Dès lors que la quantité est faible, on va dire jusqu'à à peu près 10 grammes. Hein. Il y a bien sûr un avis à l'officier de police judiciaire. Il y a un rappel à la loi en ce qui concerne notamment les primos, hein, les gens qui consomment pour la première fois, qui sont pris pour la première fois en consommation d'usage de cannabis. Donc il y a un rappel à la loi qui est lu à l'intéressé, c'est-à-dire en imprimé. Et ensuite, donc à l'issue de ce procès-verbal, qui est une procédure, on va dire, entre guillemets, simplifiée, l'individu est remis en liberté. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas, dans un premier temps, si vous voulez, pour un consommateur, on va dire que la procédure se limite en fait à un rappel à la loi.
Il y a aujourd'hui... Oui, docteur Morel ?
Non, je pense que c'est vrai, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a quand même un certain nombre de sanctions qui sont prises. Mmh. Nous occupons notamment de stages de sensibilisation qui sont liés justement à ces interpellations et qui sont des peines prononcées, avec une amende que les personnes payent. Et des recherches ont été faites là-dessus qui montrent qu'il y a un déplacement des sanctions. Heureusement, sans doute, pour éviter le tribunal correctionnel, la prison, pour les usagers de cannabis. Mais de façon plus systématique, ces dernières années, il y a des amendes qui sont prononcées déjà.
Je vais rappeler les peines encourues, c'est un an de prison, jusqu'à un an de prison et 3 750 € d'amende.
C'est ça, mais la moyenne des amendes qui sont prononcées aujourd'hui, c'est 450 €. Est-ce que cette généralisation de l'utilisation de l'amende va changer quelque chose? Rien.
Il y a 700 000 fumeurs de cannabis réguliers en France. Ça veut dire que la répression telle qu'on l'a vue, telle qu'on l'a mise en place en France, elle ne fonctionne pas.
Absolument. Enfin, c'est une évidence pour nous depuis, vous savez, ça fait 30 ans qu'on travaille sur ces questions-là, de façon très globale, avec pas simplement sur le plan du soin, mais aussi sur le plan de la prévention. Et c'est un problème de régulation des comportements. C'est pas un problème qui se résout par une simple répression. D'ailleurs, on a un congrès très prochainement, les 8 et 9 juin au Havre, avec 1000 personnes sur justement cette question des régulations. Et on sait très bien qu'il faut un ensemble de dispositions et pas... Alors là, par exemple, c'est pas de la dépénalisation. Il faut être clair là-dessus. La mesure qu'annonce M. Collomb n'est pas une dépénalisation.
Absolument, c'est pas une dépénalisation, mais on a pas mal de questions qui tournent autour de ça sur Twitter, notamment la question de Roxane. Et je vais vous la poser à vous, Thierry Clerc. Ne pourrait-on pas arrêter l'hypocrisie et légaliser la consommation de cannabis? L'État pourrait le taxer comme le tabac.
Oui, sauf que quand on voit les dégâts effectivement du cannabis sur les jeunes, notamment sur les mineurs, je veux dire, on a de quoi se poser des questions. Il y a une enquête qui est sortie encore très récemment, notamment sur les résultats au baccalauréat, où un consommateur même irrégulier de cannabis mineur, qui a commencé à fumer à 14 ou 16 ans, a deux chances de moins de réussir son baccalauréat. Donc il y a un effet effectivement qui est réel, il y a un effet sur la santé publique. Ça, c'est un débat qui dépasse la police nationale. Nous, en ce qui nous concerne. Je parlais tout à l'heure.
Vous, à l'INSA Police, vous ne réclamez pas justement cette légalisation de la consommation
non,
de cannabis?
Absolument pas, non, du tout. Non, on a affaire et on côtoie nos collègues, notamment dans les commissariats, dans les services de groupe anti-stup, dans les BAC, dans l'ensemble des services de police, côtoient justement des jeunes qui sont complètement désorientés parce qu'on a aujourd'hui des cannabis avec des taux de THC qui sont relativement importants. On a des taux à 10%, 30%, 40%. Le THC, c'est la propriété psychoactive du cannabis. Mmh. et avec des taux qui sont de plus en plus importants. Et donc ça veut dire que légaliser, on permettra effectivement à des gens de rentrer dans la surenchère en disant mais nous, toi effectivement, tu peux acheter du cannabis à 10% au bureau de tabac, il n'empêche que tu pourras trouver dans notre quartier du cannabis qui est beaucoup plus fort, qui sera plané beaucoup plus vite à 30 ou 40%, vous comprenez.
Et on ne résoudra pas le problème d'après vous. Docteur Morel, la question qui était posée par notre auditrice, la Roxane, allait jusqu'à la légalisation.
Sur le versant de la question du trafic et de l'accès aux produits cannabis, aujourd'hui avec la massification des consommations dans le monde entier, mais en particulier en France, on est quand même un des premiers consommateurs, et encore une fois chez les jeunes, en Europe, voire dans le monde. Donc devant cette massification, il faut réfléchir d'une autre façon. Dire la politique de prohibition qui est encore à l'œuvre aujourd'hui a beaucoup plus de conséquences négatives. Elle coûte très cher, elle est dangereuse, et donc il faut réfléchir à d'autres options. C'est pour ça qu'on voudrait... Il y a une mission interministérielle qui existe. Il serait souhaitable que la proposition de M. Collomb soit versée et ouvre un débat plus large pour qu'on puisse mettre tout sur la table. Il y a des éléments, je le répète, qui sont très importants pour la santé publique. On en sait quelque chose puisqu'on reçoit ces jeunes dans nos consultations. Mais il y a aussi d'autres aspects, notamment éducatifs, notamment aussi économiques.
Justement, sur l'éducation, la prévention...
Oui. Oui.
Elle est suffisante aujourd'hui? Elle existe même, par exemple, au collège, au lycée?
Elle est extrêmement insuffisante. Elle n'existe quasiment pas. Elle n'est absolument pas organisée. La France n'a pas de politique de prévention, en particulier sur les addictions. Elle n'en a pas. Donc rien n'est organisé. C'est en train d'essayer petit à petit de s'organiser. Mais le temps pris est un retard énorme, en fait, par rapport aux enjeux qui sont très importants. Or, nous avons des expériences, menons des choses un peu partout sur le terrain pour intervenir précocement auprès des familles, auprès des jeunes qui sont des consommateurs. Mais tout ça n'est absolument pas aidé par une mesure simplement répressive qui serait une contraventionnalisation. Mmh. Il peut y avoir des mesures policières, comme au Portugal, qui ouvrent aussi une mesure de santé, c'est-à-dire qu'il y a une évaluation du jeune qui est pris dans la rue en train de fumer pour voir s'il y a on peut mettre en place une aide, un accompagnement, etc.
Et c'est une proposition que vous mettez sur la table aujourd'hui. Merci en tout cas, docteur Alain Morel, psychiatre, membre de la Fédération Addiction et directeur général de l'association Opelia. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci Thierry Clerc également, secrétaire national province et outre-mer du syndicat à une sa police d'avoir débattu en direct dans Europe Midi. Merci à tous les deux. Juste une image pour avant de refermer Europe Midi, on va les voir. Donald Trump qui attendait sur le perron de l'ambassade des États-Unis à Bruxelles. Emmanuel Macron, tous les deux viennent de se serrer la main. Voilà qui est fait, la rencontre a eu lieu. Merci Anissa.
Merci à vous Maxime.